France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nietzsche et l'Italie, toute une histoire que nous vous racontons cette semaine, une histoire qui a marqué et sa vie et son œuvre. Ce matin, Gênes et Messine, oui à la vie. Nietzsche s'est rendu quatre fois à Gênes entre 1880 et 1883. Il y a rédigé son livre « Aurore » et une bonne partie du « Gai Savoir ». Il y a découvert l'opéra « Carmen » de Bizet au théâtre Paganini, dans un moment où sa rupture avec Wagner était consommée esthétiquement et politiquement. Pourquoi Gênes ? Nous nous poserons la question. C'est un port, une ville ouverte sur la mer. C'est la ville d'où est parti Christophe Colomb. Pour Nietzsche, c'est la ville où il a comme décidé qu'il vivrait ses maladies autrement, s'obligeant à une certaine joie qu'il finira de fait par éprouver. Car à Gênes, en janvier 1882, il ressent véritablement en lui une renaissance, un mieux-être, et il apostrophe avec gratitude et espoir le Saint Janvier. 1882 est une grande année pour Nietzsche. En avril, il se rend trois semaines à Messine, ville à laquelle il dédie des poèmes, les idylles de Messine. Trois semaines singulières, dans son bout du monde à lui, comme il l'écrit à un ami. Nietzsche y élabore aussi les premières idées d'Ainsi parlait Zarathoustra. Cette créativité de Nietzsche à Messine mérite une attention spéciale dans notre émission de ce matin. Et puis, parce que son ami Paul Rey évoque par lettre une femme merveilleuse à Rome, Lou Andrea Salomé, Nietzsche quitte fin avril Messine pour la rencontrer. Quelle année pour Nietzsche, quelle grande année italienne. Bonjour Stéphane Floccari.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Rappelez-moi où vous êtes professeur de philosophie en terminale.
Alors je suis professeur au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur et à l'INSEP.
Et à l'INSEP.
Mais je suis chargé d'enseignement aussi cette année et à la Sorbonne et à l'Institut catholique
de
Paris.
Mais vous faites mille choses et vous êtes un spécialiste de Nietzsche. Vous ne cessez de publier à son sujet. Vous avez même écrit une bibliothèque idéale de Nietzsche aux belles lettres. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque idéale ?
Eh bien écoutez, c'est un projet que m'a proposé la directrice des belles lettres de faire dans une très belle collection qui est la bibliothèque idéale, une réunion de tous les plus beaux, de tous les plus forts, parfois pas toujours les plus connus, des textes de Nietzsche.
Ce sont uniquement des textes de Nietzsche.
Des textes de Nietzsche sur toutes les questions qui vont de la musique au thé, de la sexualité à Zarathoustra. Il y a toutes les entrées possibles dans l'œuvre de Nietzsche.
C'est magnifique et nous vous devons l'idée de cette série Nietzsche et l'Italie. Un jour, vous publierez quelque chose sur un grand livre là-dessus, parce que le sujet est grand. Merci pour cette idée et merci à Antoine Ravon qui a fait la programmation cette semaine avec vous. Bonjour Isabelle Mons.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous enseignez à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous nous parlerez ce matin de Lou Andrea Salomé, que vous connaissez très bien, j'ai presque envie de dire, comme un personnage vivant. Vous avez publié en 2012 chez Perrin « Lou Andrea Salomé en toute liberté », puis en 2015 chez Payot « Femmes de l'âme, les pionnières de la psychanalyse », mais aussi, il y a quelques mois, chez Ampelos, « Les libératrices, Paris, août 44 ». Les femmes vous intéressent, et celle-ci, c'est une sacrée dame. Bonjour Yanis Constantidines.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeur à l'école Boulle des métiers d'art et du design, philosophe, spécialiste de Nietzsche. Votre dernier ouvrage sur son œuvre s'intitule « Le nouveau culte du corps dans les pas de Nietzsche » et il a paru cet ouvrage en 2013 aux éditions Les Pérégrines, un nom d'ailleurs d'éditeur qui, à lui seul, est un hymne au voyage, ce qui tombe très bien dans cette série sur Nietzsche en Italie.
Nous avons pénétré dans l'enceinte de l'ancien port de Gênes.
À l'origine même du port de Gênes. Ça, c'est appelé le Molo Vecchio, le Molo Ancien.
Ah oui, le Molo Ancien.
Le Molo Ancien, oui. Et le bassin que vous pouvez observer de ce côté, c'est le bassin où il y avait, l'Antiquité, il y avait les voiliers.
Oui, et c'est ça, c'était vraiment l'ancien port de Gênes.
L'ancien port et les magasins par là, c'était les magasins du 13e siècle. Et vous voyez la tour par là, c'est la tour... une des plus anciennes où a été un prisonnier Marco Polo. Et dans le Moyen-Âge, les Génois ont construit le port en bas ici sur le Molo Vecchio.
Gênes, c'est une ville introvertie. Et la mer a toujours été vue comme l'instrument de conquête, de commerce, de découverte. Mais quand même, les gens, quand rentraient dans le port, ils quittaient, je crois, avec une certaine rage, le bateau à voile dans le port pour se conforter, pour se enfermer dans la ville. Et c'est une ville de silence. Bien sûr, le port, c'était la véritable place. C'était le lieu convivial des Génois, puisque c'était le lieu dans lequel les Génois faisaient leur affaire et se rencontraient. Mais avec toujours un caractère de ce port comme un lieu de travail, une usine.
Gênes. J'ai longuement contemplé cette ville, ses maisons de campagne, ses jardins d'agrément et le vaste périmètre de ses hauteurs et de ses coteaux habités. Enfin, je dois dire que je vois les visages des générations passées. Cette région est parsemée d'images d'hommes audacieux et autoritaires. Ils ont vécu et ont voulu continuer de vivre. C'est ce qu'elles me disent avec leurs maisons, construites et décorées pour des siècles et non pour l'instant présent. Elles étaient bonnes pour la vie, aussi mauvaises qu'elles aient souvent été envers elles-mêmes. Je vois toujours le bâtisseur, le regard posé sur tout ce qui est construit autour de lui, au loin et à proximité, ainsi que sur la ville, la mer et les montagnes, exerçant avec ce regard une violence et une conquête. Il veut intégrer tout cela dans son projet et finalement se l'approprier en le transformant en une partie de ce projet lui-même. Au nord, la loi et le goût général pour la légalité et l'obéissance impressionnent lorsqu'on observe l'architecture des villes. On devine alors cette soumission intérieure de soi, cette intégration à un ordre qui doivent avoir dominé l'âme de tous les constructeurs. Mais ici, à chaque coin de rue, on trouve un homme qui connaît la mer, l'aventure et l'Orient, un homme qui déteste la loi et son voisin comme une sorte d'ennui, et qui jette un regard envieux sur tout ce qui est établi, tout ce qui est ancien. Avec une merveilleuse malice de l'imagination, il voudrait refonder tout cela, au moins en pensée, y mettre sa main, son esprit, ne serait-ce que pour le temps d'un après-midi ensoleillé où son âme insatiable et mélancolique se sent rassasiée et où ses yeux ne peuvent voir que ce qui lui est propre et rien d'étranger.
Vous venez d'entendre d'abord une archive de L'Échappée belle sur France Culture de 1992 où on entendait notamment l'architecte génois Renzo Piano qui a là-bas à Gênes un immense atelier d'architecture et qui est profondément génois. Et ça tombe bien parce qu'ensuite vous avez entendu un extrait du Gai Savoir de Nietzsche de 1882, livre largement écrit à Gênes, et Nietzsche parle des bâtisseurs. Ça fait un peu penser à Renzo Piano. Il parle aussi de Génois qui détestent la loi, qui veulent tout refonder. Yanis Constantinides, c'est important ce rapport au nouveau et au fait de bâtir chez Nietzsche.
Oui, je voudrais d'abord, si vous le permettez, comme c'est la saison des Oscars, dédier cette émission à la mémoire d'un étudiant disparu cette année, Alex Toiteau. Et un petit bonhomme magnifique s'appelle Hector Davout. Voilà. Alors cette nouveauté est essentielle chez Nietzsche parce ce moment charnière est le moment où il quitte l'Allemagne, où il veut un nouvel avenir en fait, où il cherche quelque chose de nouveau. Et il compare effectivement dans ce texte l'architecture allemande qui est sage, qui est normée, qui obéit à la loi, avec des gens du coup respectueux de la loi, à cet esprit libre, ces esprits libres déjà génois, dont il va s'inspirer dans Aurore déjà, puis Le Gai Savoir.
Vous qui enseignez les métiers de l'art, enfin dans une école boule, merveilleuse école, où on apprend les métiers d'art et du design, ça vous va très bien en tant que Nietzschéen d'être là-bas.
Bien sûr, et vous l'avez dit, il insiste beaucoup dans ce paragraphe 291 sur Du Gai Savoir, sur l'architecture. Parce que autant Nietzsche n'est pas intéressé par les vestiges romains ou les vestiges classiques. C'est un voyageur qui ne visite pas les lieux qu'il faut visiter, mais il se balade tranquillement dans la ville, dans les montagnes de Gênes, et il admire notamment ses constructions. Voilà, il y a un aspect, il y a un regard architectural aussi chez Nietzsche.
Nietzsche n'aime pas tellement l'ancien, et alors que souvent le voyage en Italie, depuis la Renaissance, c'est le voyage, Stéphane Flocari, vers le passé. Eh bien, ce n'est pas du tout comme cela que Nietzsche va en Italie. C'est une terre d'avenir et de projets qu'il va sans cesse chercher en Italie, et singulièrement à Gênes, Stéphane Flocari.
Ah, il me semble que Nietzsche a pu s'intéresser à l'architecture. L'architecture génoise, d'ailleurs, elle est assez particulière puisque c'est une architecture sur les façades qui est pour l'essentiel en trompe-l'œil. C'est-à-dire les choses ne sont pas construites. La maçonnerie n'est pas apparente ni réelle comme elle l'est dans les pays du Nord. Nietzsche a dû sans doute apprécier ce goût de l'apparence des Génois. Mais les Génois sont des bâtisseurs, des constructeurs, sont des navigateurs, des projecteurs, des projeteurs, sont des gens qui se projettent au-delà de leur propre ville. Et évidemment, la figure tutélaire de Christophe Colomb intéresse beaucoup Nietzsche et son rapport à la mer. Nietzsche écrit souvent que on ne devrait jamais habiter dans une maison qui n'est pas proche de la mer. Il faudrait pouvoir voir la mer. Et il a écrit des ouvrages comme la dernière partie du Gai Savoir, mais aussi au moins une partie du Zarathoustra, non pas exactement en ville d'Angènes, mais juste à côté, parce qu'il a été à Pelli, à Nervi, à Bogliasco, à Ruta di Camogli, Portofino, Rapallo, Santa Margherita. Il connaît la route de Zoagli dont il parle. Il connaît parfaitement cette montagne-là.
Oui, c'est un peu montagneux, très clairement.
C'est assez montagneux. Et vous avez sur le plan architectural une ville incroyable qui s'appelle Camogli. C'est la Casa delle Mogli, les maisons des femmes, qui sont des maisons très très hautes, bâties dans le ciel, et qui permettaient aux femmes de marins de voir au loin leurs marins de mari revenir vers les villes. Donc Nietzsche, évidemment, il est touché par tout ça. Mais je crois que ce qui a touché Nietzsche dans l'Italie, c'est quand même d'abord une lumière, c'est quand même d'abord un climat. Il le dit, personne n'est tout à fait libre de vivre exactement où bon lui semble. Pour Nietzsche, les villes dans lesquelles on peut vivre, c'est Paris, c'est Florence, c'est Nice. Jérusalem. Alors Nice,
on
est une ville italienne.
On a parlé hier, voilà, on a beaucoup parlé de ça.
Jérusalem, bon. Mais surtout pas les villes du Nord que lui a fréquentées.
Oui.
Donc chez Nietzsche, si vous voulez, le lieu de vie, comme l'alimentation, ne sont pas simplement des éléments matériels, sont des conditions de la créativité elle-même.
Bon, bah vous me faites une transition toute trouvée. Pardon, je vous donnerai la parole après Isabelle Mance, mais là, il parle d'alimentation. Vous allez entendre une lettre de Nietzsche parlant de nourriture italienne. Moi, je pensais qu'il nous parlerait du pesto de Gênes, mais ce sont d'autres choses qui l'ont touché. Écoutez.
Maintenant, j'ai une excellente trattoria, où le professeur d'allemand est traité avec la plus grande courtoisie. Minestrone ou risotto, un bon rôti, des légumes et du pain. Tout est délicieux. Entre nous, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas ce que c'était que manger avec appétit. J'ajoute 10 centimes supplémentaires. En échange, je reçois une très grande portion. Surtout du veau rôti que je n'avais jamais mangé comme ça, avec des légumes et des épinards. Je n'imaginais pas à quel point les Italiens étaient supérieurs en art culinaire.
Il importe de se prouver à soi-même qu'on est destiné à l'indépendance et au commandement, et cela au bon moment. On ne doit pas éluder l'obligation de faire ses preuves, bien qu'il n'y ait peut-être pas de jeu plus périlleux, et qu'en définitive, il s'agisse seulement de preuves dont nous sommes nous-mêmes les témoins et les seuls juges. Ne s'attacher à aucune personne, fût-ce la plus aimée. Toute personne est une prison et aussi un refuge. Ne s'attacher à aucune patrie, fût-elle la plus souffrante et la plus démunie, il est déjà moins difficile de détacher son cœur d'une patrie victorieuse. Ne s'attacher à aucune compassion, s'adressa-t-elle à des hommes supérieurs dont un hasard nous révéla le rare martyr et l'abandon. Ne s'attacher à aucune science, nous attira-t-elle par la promesse des découvertes les plus précieuses, des découvertes qu'elle semble nous réserver. Ne pas s'attacher à son propre détachement, à cette volupté du lointain qui est celle de l'oiseau volant toujours plus haut pour voir l'espace s'élargir sous ses ailes. C'est le péril de celui qui vole. Ne pas s'attacher à ses vertus et ne pas sacrifier son être total à une particularité quelconque, par exemple à son goût de l'hospitalité, péril par excellence des âmes nobles et riches qui sont prodigues et comme insoucieuses d'elles-mêmes et qui portent jusqu'au vice la vertu de la générosité. On doit savoir se garder. C'est la plus forte preuve d'indépendance.
Vous aurez reconnu Nicolas Berger qui prête sa voix à Nietzsche ce matin, notre réalisateur. Et auparavant, vous avez entendu un extrait du documentaire d'Yvan Butel que nous recevions hier, Le philosophe qui rivait du Nil. Et donc c'est lui-même qui lisait Nietzsche parlant de ce veau bouilli et des épinards, c'est ça qu'il aime. Isabelle Mons, je voudrais un regard sur lui d'abord, avant de parler du problème du détachement, parce que franchement, enfin, on va y venir, mais détaché de tout, mais quand même, il montre qu'il a des sens et qu'il s'attache à des choses qui ont bon goût. Enfin, je trouve ça un peu délicat ce thème. Mais vous qui connaissez Lou Andrea Salomé, quand elle l'a connu, a-t-elle vu un homme gourmand? A-t-elle vu un homme indépendant? A-t-elle vu un homme qui aimait s'isoler? Qui a-t-elle vu?
Elle a vu un homme solitaire. Vous évoquiez à l'instant le Wanderer de l'idéal goethéen. Lorsqu'elle rencontre Nietzsche à Rome en avril 1882, elle rencontre plutôt le fugitif errant. C'est-à-dire l'homme qui, effectivement, apprécie en Italie la solitude, ce contact direct à la nature qui lui permet la contemplation d'un espace qui ne lui serait pas hostile, car il a besoin de ce confort de vie pour pouvoir créer. En revanche, l'on sait que Nietzsche est déjà atteint par la maladie et il est à la recherche de proies. Écrit-il à Paul Rey en mars 1882. Nietzsche est à Gênes, Paul Rey est à Rome avec Malvida von Meisenburg. Paul Rey lui a déjà parlé de cette jeune Lou von Salomé qui arrive de Zurich en étant partie de Saint-Pétersbourg où elle a eu une éducation intellectuelle très poussée pour une femme à l'âge de 18-20 ans.
Elle n'est pas encore mariée, on est d'accord.
Elle n'est pas encore
mariée. Donc elle n'est pas en fait madame...
Lou Andrea Salomé.
Non. Elle est Lou Salomé.
Voilà, elle est Lou von Salomé, jeune fille venue de Russie, qui est entrée quand même dans l'une des premières universités ouvertes aux femmes à Zurich en 1881. Et lorsqu'elle rencontre Malvida von Meisenburg et Paul Rey, qui sera son complice des années berlinoises plus tard.
Alors, Paul Rey, faut en dire un petit mot quand même.
Alors, Paul Rey est le philosophe moraliste qui a écrit sur l'origine des sentiments moraux. Ce qui les rattache tous les deux, c'est d'abord ce goût de l'émancipation. Il est fasciné par cette jeune fille qui aime sortir sans chaperon la nuit avec lui dans les rues de Rome. Et deuxième point, elle apprécie son approche moralisante de la vie, mais pas trop.
Bon, elle est amoureuse, Lou Andrea, de l'un de ces deux messieurs, le Paul Rey, Friedrich Nietzsche.
Disons qu'elle a son approche de l'amour qui est déjà très particulière à 20 ans, c'est-à-dire que l'amour ne se traduit que par la complicité intellectuelle.
En tout cas, elle aime l'Italie, elle aussi.
Elle aime l'Italie parce qu'elle a aussi des symptômes de la tuberculose qui lui ont fait quitter la Russie. Donc, avec Nietzsche, elle a ce point commun d'avoir cette sensation de la chaleur, de l'espace, de la liberté à travers la nature qui lui est offerte en Italie. Mais il ne faut pas oublier les nourritures intellectuelles. Et lorsque Nietzsche lui écrit à Paul Rey le 21 mars 1882 « Saluez cette ruse de ma part, je convoite cette sorte d'âme et je me mettrai bientôt à la recherche de telle proie, j'en ai besoin pour les 10 prochaines années. Et un mariage peut-être, mais pas plus de 2 ans. »
Alors évidemment, il y a un aspect prédateur qui ne sera pas du goût de tout le monde, mais les oiseaux de proie chez Nietzsche, c'est l'élégance, la fierté,
il faut peut-être pas projeter uniquement et précisément pas une envie de dominer. Mais juste pour que ce soit clair, après je vais poser plein de questions sur la conquête, etc. à ces messieurs spécialistes de Nietzsche, mais juste pour que vous nous précisiez les choses. Sans être voyeuriste, on peut dire que ces trois-là vont se trouver. Nietzsche est en pleine forme, hein, et c'est assez rare dans sa vie. Il sort de Gênes et de Messine, il a adoré. Il va très bien au printemps 1882. Mais il y a rien de charnel entre aucun de ces trois-là. C'est ça ? Ce sont des amitiés à la fois affectivement fortes, très intellectuelles, mais en aucun cas sensuelles.
La rencontre entre Paul Ré, Friedrich Nietzsche et Lou von Salomé dure, on peut dire, 6 à 8 mois. Elle se traduit par 61 lettres de Nietzsche à Lou. Et au niveau temporel, il y a 4 mois de relations épistolaires et également de rencontres, puisque entre la rencontre entre Lou von Salomé et Nietzsche au mois d'avril 1882 et l'étude à laquelle tous deux se livrent à Tautenbourg au mois d'août, il y a 4 mois. Et à partir du mois de septembre 1882 jusqu'en décembre, la relation est uniquement épistolaire parce qu'ils ont un grand projet: vivre à trois, dans une complicité intellectuelle, une cohabitation qui pourrait se dérouler à Vienne. Et finalement, à la suite de la rupture, à l'automne 1882, Lou von Salomé et Paul Ré partiront à Berlin vivre comme frères et sœurs. Et Nietzsche sera...
C'est pas un couple, mais c'est quand même le choix de Paul Ré qui fait que Nietzsche va se retirer. C'est ça.
C'est en fait, on entrera peut-être dans le détail, mais Nietzsche et Lou von Salomé ont vécu, entre guillemets, ensemble, dans la demeure des Nietzsche, 3 semaines au mois d'août, mais en compagnie d'Elisabeth Nietzsche.
Et bon, c'est bon, on va s'arrêter sur les aspects biographiques. Certains diraient que ça ne nous regarde pas, bon, mais quand même, la biographie, ce n'est pas du tout anodin chez Nietzsche. C'est un homme qui pense que c'est la vie qui se donne dans l'œuvre. Alors maintenant, j'aimerais que Yanis Constantinides, vous nous disiez ce que c'est que ce sens de la conquête et de la proie chez Nietzsche, doublé de ce que nous avons entendu dans le texte qui a été lu juste auparavant de Par-delà bien et mal, qui est un ouvrage de 1886, sur l'idée d'être toujours détaché, c'est-à-dire se fixer peut-être sur une proie ou sur un engouement, et puis savoir toujours se détacher. Moi, je trouve ça un peu contradictoire avec le côté relâché, sympathique quand même, un peu sensuel, si rare en fait chez Nietzsche, dans son rapport à la nourriture. Je trouve qu'il se laisse un peu aller en Italie, et c'est une tonalité malgré tout différente de cet hymne permanent à ne pas s'attacher, etc. Expliquez-moi un peu cet univers nietzschéen où peut-être il y a des contradictions.
Alors, je ne sais pas s'il y a des contradictions, mais le thème du détachement est essentiel, en effet. Parce que comme l'a dit Stefan Zweig, qui écrit ce très beau livre sur Nietzsche, avec Hölderlin et Kleist sur le combat avec le démon, Nietzsche, en allant en Italie, justement, se dégermanise. Voilà, il se dégermanise, il se détache de ses proches, de sa mère et de sa sœur, dont il dira des horreurs ensuite dans Ecce Homo, voilà, dire « je n'aime pas ma mère, ma sœur est une objection contre l'existence, l'éternel retour », voilà. Et donc, il va effectivement rechercher la santé, rechercher un climat propice en Italie, voilà. Il a pu dire dans une lettre qu'il allait à la recherche d'une nouvelle nourriture, un nouveau soleil, un nouvel avenir. Et à Sorrente, je ne sais pas si vous l'avez évoqué hier, je n'ai pas encore écouté l'émission, mais à un moment, à l'hôtel, il signe Don Federico, voilà, uomo dell'avenir, homme de l'avenir, voilà, de manière assez drôle, dans un italien approximatif. Voilà, il y a cette idée de chercher l'avenir, effectivement, pas le passé comme Cicérone, disons-nous tout à l'heure. Alors, le détachement, en même temps, n'est pas absolu, parce que vous avez vu le fin du texte, il faut se détacher de son propre détachement, et il ne faut pas non plus que le détachement devienne systématique. Oui. Voilà. C'est-à-dire que chez Nietzsche, il y a cette possibilité, effectivement, de reconstruire un attachement. Mais un attachement, on l'a vu avec le projet de se marier 2 ans, hein, mais un attachement, effectivement, éphémère. Oui. Voilà, parce que l'apôtre de l'éternel retour, en réalité, est aussi attaché à l'impermanence des choses, dont il pense que la seule éternité, l'instant comme seule éternité.
Mais puisque vous évoquiez Stefan Zweig, celui-ci, dans son livre sur Nietzsche,
dit que c'est le contraire de Goethe. Nietzsche va en Italie pour s'expatrier définitivement, je cite Zweig, voilà. Alors que Goethe cherche... Pourtant, ce n'est pas un nationaliste, hein. Vraiment, Goethe, ce n'est pas Herder, quoi. Mais il est heureux d'être allemand. Et ça lui a donné, ça lui a rappelé ce qu'était son attachement sans un nationalisme exacerbé. C'est très différent de Nietzsche.
Oui, Zweig effectivement compare les deux, comme d'autres auteurs ont comparé le voyage de Goethe en Italie, peut-être même qui est allé à Messine sur les traces de Goethe, on ne sait pas trop. Mais Zweig dit la chose intéressante suivante, il dit Goethe dit en fait je peux être moi-même qu'en Allemagne et voilà l'Italie c'était une étape. Alors que Nietzsche se rend compte en voyageant en Italie qu'il ne peut plus être allemand. Voilà, qu'il est expatrié définitivement.
Mais il n'est pas italien non plus.
Il n'est pas italien non plus.
Alors il ne veut plus appartenir.
L'italien au bout d'un moment. Mais voilà, c'est plus la recherche d'un lieu idéal. Voilà, parce que c'est essentiel pour lui, cette sécurité mentale, comme disait Stéphane, pour qu'il puisse créer. Hein. Le lieu n'est pas juste une destination touristique pour Nietzsche, loin de là. Mais il y a une sensibilité barométrique qui fait qu'il a testé plein d'endroits, en réalité, jusqu'au moment où il s'établit à Turin. Il a testé plein d'endroits pour voir si lequel lui convenait le mieux. Voilà. Et donc, à un moment, il a cru que Messine pouvait être cet endroit, mais le Sirocco le fait fuir vers Rome ensuite.
Je voulais réagir. On vient de dire plein de choses là sur Nietzsche qui ne sont pas toujours, n'ont peut-être pas été complètement dépliées. Alors, Stéphane Flocari, je vous laisse réagir et nous préciser certains points si vous le souhaitez.
Alors, je suis d'accord évidemment avec ce que vient de dire Yanis, mais. Cette affaire de la présence dans les textes philosophiques de Nietzsche d'énormément d'éléments biographiques, il faut la traiter philosophiquement. C'est-à-dire, d'un point de vue philosophique, si Nietzsche se met à parler du lieu, du climat, etc., c'est parce qu'en fait, il a aussi à l'esprit un grand projet philosophique qui est celui du dépassement de la métaphysique, et notamment la question de la causalité. Quand il évoque l'abbé Cornaro, dans ses derniers ouvrages, dans « Crépuscule des idoles ». Il dit, Cornaro dit, voilà, je suis en bonne santé, et on peut être en bonne santé parce qu'on suit un bon régime alimentaire. Alors, Nietzsche dit, mais Cornaro, il confond la cause et l'effet. S'il peut avoir ce régime extrêmement frugal, c'est parce qu'il a lui-même un métabolisme ralenti. Et la question est de savoir si c'est l'Italie qui a transformé Nietzsche, ou si c'est une métamorphose qui était en cours chez Nietzsche, qui lui a permis l'Italie, qui lui a permis de s'ouvrir à l'Italie. Lui, cet Allemand, ce petit bourgeois provincial, élevé, mais biberonné, si je puis dire, à la musique, à la poésie, puis à la philologie, à des choses extrêmement sérieuses, étudiées avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'investissement personnel, et aussi beaucoup de discipline. Hein. Il y a cette fameuse anecdote où on raconte que la mère de Nietzsche lui avait interdit de courir sous la pluie, et un jour, il y a un orage terrible, et Nietzsche rentre à pied tout doucement, enfant à la maison, vous voyez, comme quand vous dites à un enfant de porter un verre doucement jusqu'à la cuisine et qu'il le fait méthodiquement. Bon. Alors, chez Nietzsche, la question est de savoir comment est-ce qu'il a pu s'ouvrir à l'Italie et quel rôle joue l'Italie dans son parcours. C'est une vieille histoire, la question du rapport de Nietzsche à l'Italie. Bon, il y a le livre dans les années 20 de Guy de Pourtalès, Nietzsche en Italie, qui est déjà un livre assez intéressant et assez documenté pour l'époque, hein, fin des années 20. Mais moi, ça m'amuse beaucoup de relire cette lettre du 3 septembre 1869 que Nietzsche écrit à son vieux copain Erwin Rode, qui est un philologue, qui a écrit Psyché, ce gros volume qui a été publié par NEM il y a pas très longtemps chez Encre Marine, c'est vraiment un sommet de la philologie. Et il dit à Rode, en 69, hein, il a jamais mis un pied en Italie. Deux ans avant, il a pleuré au moment de la Commune parce qu'il a eu peur que les communards aient brûlé le Louvre. Et il dit à Rode, moi aussi j'ai mon Italie. Et sa première Italie, c'est Tribschen chez Wagner. Donc, l'Italie pour Nietzsche, je crois, hein, oui. En fait, il faut le prendre dans le cadre de son évolution comme le lieu d'une métamorphose. Oui. Et ce qu'il est possible pour lui de vivre en Italie est aussi toujours corrélé à une étape de sa propre pensée, qui est une pensée en constante évolution, où la langue se modifie tout le temps, et ce qu'on voit dans ses projets amoureux, dans ses projets résidentiels, dans ses remarques alimentaires, se trouve aussi dans sa pensée. C'est-à-dire une sorte de recherche en zigzag permanente, une sorte de, comme un skieur ou comme un surfeur, oui, tout le temps en train de chercher une nouvelle vague. Et en Italie, eh bien, il commence par dire, quand il arrive à Gênes, « C'est chez moi, je me sens chez moi, c'est formidable. » Et puis au bout d'un moment, il s'en va parce que ça ne lui correspond plus.
Et il va plus au sud.
Et il va
d'ailleurs,
plus au sud.
En juillet 1883, il évoquera le bien que lui a toujours fait l'Italie. Et il écrit à ce moment-là « Je me demande pourquoi chaque année, lorsque le printemps arrive, je ressens le besoin irrépressible d'aller encore plus au sud. » En l'occurrence, cette année-là, il va aller à Rome. Mais il rappelle que l'année d'avant, il a été à Messine. Alors Messine, oui, c'est plus au sud. Qu'a-t-il trouvé à Messine? Quelle a été sa solitude aussi à Messine? Je voudrais que vous me le décriviez un petit peu. Voici une carte postale que Nietzsche a envoyée de Messine le 8 avril 1882 à un de ses amis.
La raison a donc triomphé, cher ami. Suite à ces derniers étés passés à la montagne avec de si mauvais résultats pour moi, et au regard du lien entre l'approche des nuages et la dégradation de mon état, il ne me restait plus qu'à tenter un été à la mer. La ville était difficile à trouver. Au final, j'ai fait le voyage directement, d'un seul et unique saut audacieux, comme unique passager jusque vers Messine, ici. Et je commence à croire que j'ai fait preuve de plus de fortune que de raison, car Messine semble faite pour moi. Les Messinois montrent également à mon endroit une telle amabilité et une telle prévenance que j'en suis arrivé aux plus surprenantes hypothèses. Par exemple, celle de savoir si quelqu'un ne voyage pas derrière moi en soudoyant les gens à mon avantage. Adresse, Messine, Sicile, poste restante. Ta bonne lettre m'a fait bien réfléchir et rire. Toujours ton et votre, Friedrich Nietzsche.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Merci à notre réalisateur Nicolas Berger pour ces vagues, ce bruit de la mer. Il est quand même très seul à Messine, en Sicile, Nietzsche. Vous le voyez comment, vous, Yanis Constantinides, vous l'imaginez intellectuellement et psychiquement, dans quel état?
C'est un être assez pitoyable, hein, il faut le dire. Il arrive malade à Messine, il doit être transporté, semble-t-il, sur une sorte de brancard quand il débarque effectivement seul. C'est un choix surprenant d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi il s'est embarqué pour Messine, sur un rafio, voilà.
Puis il a un mal de mer, enfin, je l'ai déjà dit hier, on va dire que je suis obsédée, mais lui-même il en parle tout le temps. La nausée, hélas, un état que Nietzsche a beaucoup connu aussi à cause de ses migraines. Mais il y va, et d'ailleurs il ira mieux, puisqu'ensuite il partira voir Louis-André Salomé dans de meilleures constitutions.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, d'après? Qu'est-ce qu'il crée là-bas? C'est quand même incroyable. Il ne va pas très bien au début, mais il va être extraordinairement créatif. Il va même écrire des poèmes.
Alors les poèmes, il semble qu'il les ait écrits avant d'aller à Messine, les idylles à Messine. Peut-être qu'il les a relus là-bas. Mais je crois qu'il était très seul. Alors, la coïncidence, on ne sait pas trop. Nietzsche probablement le savait, c'est que Wagner se trouve en Sicile, tout près. Pendant quelques jours, ils auraient pu se croiser, semble-t-il, devant le Duomo. voilà, mais en réalité, il n'y a aucune trace d'une rencontre possible. Mais peut-être que Nietzsche l'espérait tout en le craignant. Voilà, c'est difficile de comprendre la psychologie, même en lisant la correspondance. C'est quelqu'un avec plusieurs labyrinthes, plusieurs pensées qui s'expriment différemment selon qu'il parle à sa mère, à sa sœur, à Overbeck, à Rhodes, à Gast, etc. Donc voilà, moi je pense qu'à Messine, il a découvert cette simplicité. Voilà, ce soleil, c'est le plus au sud où il va dans sa vie. Hein. plus au sud, voilà, presque l'Afrique, lui dit Overbeck en réponse. Donc, ce climat demi-africain. Et donc, à mon avis, voilà, il a découvert effectivement cette prévenance. Et vous remarquerez, ce sera l'émission de jeudi, sans doute, qu'il dit la même chose qu'il dira à Turin, bon, où affleure un peu la folie. C'est les gens se retournent à mon passage, les gens me traitent très bien, tout le monde respecte le vieux professeur allemand. Alors que sans doute, personne ne sait qui il est à l'époque. Mais voilà, il y a une sorte de rencontre, peut-être de fausse rencontre avec cet Italien simple et prévenant qui est l'habitant de Messine.
Stéphane Flocari, vous avez préfacé ou postfacé, pardonnez-moi, je ne sais plus, un ouvrage, je veux bien que vous en parliez, sur un ouvrage d'un journaliste italien, sur Nietzsche à Messine. Et puis je sais, parce que je vous connais un peu, qu'ensuite vous nous parlerez du rapport très complexe à Wagner, qui va s'exprimer dans ce voyage, puisque Wagner n'est pas loin, il est avec ses cinq enfants et Cosima dans le magnifique hôtel Vittoria. Mais ils ne se verront pas. Alors je vous laisse nous parler de Messine et de
Nietzsche. Oui, ben écoutez, merci de me donner une occasion de parler de Messine, qui est une ville que je ne connais pas seulement intellectuellement, mais que je vis depuis 50 ans chaque été.
Chaque été, vous
chaque été, Messine. J'ai une maison juste en face, de l'autre côté, côté calabrais. Et j'avoue que les cartes postales de Nietzsche, qui parlent de ces monts de Calabre qu'il regarde, me vont droit au cœur. Mais cette affaire messinoise, cette affaire sicilienne, c'est une affaire qui un peu commence sur un coup de tête. Alors effectivement, c'est Marcello Mento, un journaliste italien de la Gazzetta del Sud, qui a consacré un livre entier à une question sur laquelle j'avais commencé à travailler, puisque j'envisageais de faire un livre, et puis en travaillant la bibliographie, je me suis rendu compte que le livre existait. Donc je l'ai traduit l'année dernière aux éditions Hippagine, et j'ai ajouté une postface sur la carte postale. Parce que la carte postale, c'est très important. Quand Nietzsche à Messine, il envoie 4 cartes postales. Mmh. Alors les cartes postales, ce n'est pas des photos à l'époque. Hein. C'est juste l'adresse devant. Et puis derrière, vous pouvez écrire quelque chose. Mmh. Et il écrit à maman quand même. Il écrit à la frangine.
Bon, la méchante.
La méchante qui n'est pas encore mariée avec son affreux.
Oui.
Bon. Et puis il écrit à Overbeck et il écrit à Kösselitz. Donc il écrit au cercle extrêmement rapproché. Et souvent Nietzsche dit... Et écrit, nous ne vivons des choses et nous ne traversons des choses que ce que nous y projetons nous-mêmes. Et évidemment, Nietzsche, c'est un Allemand, c'est un petit bourgeois bien élevé, et il arrive dans ce monde sicilien, il arrive dans ce port que Marcello Mento décrit parfaitement dans son bouquin. Il faut voir ce que c'est, il y a des gamins en guenilles qui vous font les poches.
C'est pauvre.
C'est allez, pauvre,
alors
c'est
qu'il y a un hôtel
pauvre.
De luxe à quelques centaines
de
mètres.
Il y a un hôtel de luxe, il y a énormément de consulats et d'ambassades. Parce que c'est un des ports méditerranéens les plus rayonnants à l'époque, puisque la Sicile se trouve un peu dans l'axe de la Méditerranée. Hein, donc tous les bateaux y passent. Et Nietzsche, sur un coup de tête, s'embarque sur un bateau de fret à voile. Évidemment, il dit toujours « mare molto cattivo », la mer est toujours très mauvaise. Mais c'était déjà le cas quand il était allé à Sorrente, qu'il était revenu, il avait cru crever entre Livourne et la baie de Naples. Et là, il arrive à Messine, et quand il arrive à Messine, les oranges coûtent pas cher, il loue sa chambre pour 3 sous. Donc, Nietzsche, qui a quand même une petite solde depuis 3 ans, qui lui a été accordée par l'université de Bâle, bah, il fait attention à ses affaires.
Oui, parce qu'il a renoncé à son poste, mais il a une petite pension.
Il touche un peu d'argent, mais il a des chemises élimées, il demande à Elisabeth de lui envoyer des maillots de corps ou des chemises, et là, il trouve le soleil, le calme, la solitude dont il a besoin, sauf que, sans doute, cette solitude est quand même un peu peuplée. Parce que quand il est à Gênes, il sait très bien par les manchettes des journaux que Wagner est là-bas.
Ah, parce que tout le monde dit dans les journaux italiens quand Wagner voyage en Italie.
Bien entendu, et surtout quand il est à Palerme pour y mettre la dernière main à son Parsifal, et où il est parti d'ailleurs aussi en Sicile pour sans doute faire profiter au jeune Siegfried des eaux thermales d'Acireale. Et donc... Nietzsche.
Son fils, donc, qui a besoin de
Wagner. Le fils Wagner est un peu malade. Et donc, Wagner a aussi ce motif-là. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant, parce que quand il arrive, Wagner, à Palerme, Mento raconte ça, toute l'aristocratie palermitaine lui propose toutes les villas qu'il veut. Et c'est Cosima qui choisit la villa qu'elle veut. Et il me semble que ce qui montre, vous avez bien fait de choisir cette carte postale, ce qui montre que Nietzsche reste un Allemand et un homme du Nord, c'est que ce qu'il appelle cette prévenance, cette amabilité, c'est la chose la plus simple du monde dans le sud de l'Italie, hein, avec tout le monde. Et Overbeck lui dit, mais t'es fou d'aller là-bas, c'est l'Afrique là-bas. Hein. Et tu vas crever sous le soleil. Mais lui, il aimerait tenter une escapade estivale, il voudrait faire entrer tout le soleil, mais c'est trop pour lui. Alors, Mento raconte, il faut lire ce bouquin, c'est pas moi qui l'ai écrit, moi je l'ai simplement traduit, mais il faut le lire, voilà, c'est une très belle lecture d'été, n'est-ce pas, hein, qu'on fait sur un transat, de voir ce qu'il dit de Stromboli, est-ce qu'il a pu fantasmer sur Stromboli, est-ce qu'il est allé à Taormina ou pas, est-ce que les mœurs sexuelles, nous parlions de sensualité tout à l'heure, est-ce que les mœurs sexuelles extrêmement libérales, dont certains écrivains allemands et autres pouvaient profiter en Sicile, ont pu attirer Nietzsche? Est-ce que Nietzsche était homosexuel? Mento va jusque-là et pose cette question en refermant très vite la porte, parce qu'il n'y a aucun élément qui le montre. Hein. Qu'est-ce que Nietzsche a fait à Messine? Ben, pendant 3 semaines, ben, il a eu sans doute une paix royale, il avait laissé la Germanie derrière lui, il était très au sud, et il avait écrit, Yanis a raison de le dire, avant même de partir, des idylles de Messine. Et on peut peut-être juste en dire un tout petit mot, parce que c'est un des textes les moins commentés de Nietzsche.
Oui,
les idylles de Messine,
ce sont des poèmes,
c'est une série de poèmes, dont tous ne seront pas gardés par Nietzsche. Ils sont publiés dès le mois de mai par un éditeur allemand, l'éditeur de Nietzsche, et dans une revue. Mais certains seront conservés dans le Gai Savoir, dans la seconde édition du Gai Savoir, en 1887. Et dans ces poèmes, bah, on y trouve des thèmes comme par exemple celui de la légèreté. Il y a une évocation de l'albatros, où c'est pas l'albatros veule et très maladroit de Baudelaire. Au contraire, c'est un oiseau aérien. Et ce qui intéresse Nietzsche, c'est l'allègement de la vie. C'est un thème qu'il a
depuis humain. Ça, c'est l'anti-Wagner, en tout cas, pour le...
Oui.
Et alors, évidemment, Wagner, il sait qu'il est là-bas, vous nous l'avez dit, Nietzsche le sait.
Nietzsche le sait,
et c'est
pas
parfaitement
Wagner.
Intentionnel qu'il ne crée pas la rencontre. Ou vous pensez comme Yanis Constantinides, qui a une ambiguïté, il a un peu cherché,
bien sûr,
à le voir.
Bien sûr, il regrettera profondément, février de l'année suivante, que Wagner meure,
bah oui,
qu'il n'ait jamais pu se revoir. Il est mort à Venise, on en parlera demain, n'est-ce pas? Mais... ce qui est certain, c'est que Mento s'est amusé, en prenant le cadastre de la ville messinoise, de montrer qu'ils étaient à 200-300 mètres de différence, dos à dos, se sont jamais rencontrés. Là, il n'y a pas un de nos auditeurs, quand même, qui va écrire une pièce de théâtre ou faire un film là-dessus.
Quand vous dites, il n'y a c'est pas, il y aura peut-être.
Il y aura, mais voilà, mais non, c'est une protestation, c'est pas une question.
Oui, oui, donc le rapport encore complexe à Wagner.
Ben oui, c'est une blessure. C'est une blessure qui est encore tout à fait ouverte à ce moment-là, mais ça, je vous assure que.
Oui, ne supporte plus.
Qu'à l'époque, les journaux l'annoncent, et Wagner, quand il arrive à Messine, il y a aussi des manchettes de presse, donc il est au courant, Nietzsche, de cette affaire.
Reparlons un peu de Lou Salomé, qui n'est pas encore Lou Andreas Salomé, puisqu'elle n'est pas encore mariée. Il est très retapé, Nietzsche, quand il va aller la voir en avril, il est en meilleure santé. Comment le voit-elle? C'est à nouveau la question que je pose, et cette fois-ci, en vous proposant un extrait de son livre sur Nietzsche, Lou Andreas Salomé, a publié en 1894 Friedrich Nietzsche à travers ses œuvres.
Je dirais volontiers que ce qui vous fascinait le plus en lui, c'était ce je ne sais quoi de constamment dérobé au regard. Le pressentiment d'une solitude inavouée, mais qui vous frappait dès le premier coup d'œil. Sans doute une première rencontre avec Nietzsche n'offrait-elle rien de révélateur à l'observateur superficiel. Cet homme de taille moyenne, au trait calme et aux cheveux bruns rejetés en arrière, vêtu d'une façon modeste, bien qu'extrêmement soignée, pouvait aisément passer inaperçu. Les traits fins et merveilleusement expressifs de sa bouche étaient presque entièrement recouverts par les broussailles d'une épaisse moustache tombante. Il avait un rire doux, une manière de parler sans bruit, une démarche prudente et réfléchie qui lui faisait courber légèrement les épaules. On se représentait difficilement cette silhouette au milieu d'une foule. Elle était marquée du signe qui distingue ceux qui vivent seuls et en marche.
Vous entendiez cette extraordinaire manière de décrire de Lou Salomé. J'aimerais savoir, Isabelle Mons, si... Bon, évidemment, c'est toujours une reconstruction, hein, une écriture a posteriori. Mais vous qui la connaissez, qu'est-ce qu'elle éprouve ? Est-il aussi... tout à l'heure, vous voyez des contradictions. Tout à l'heure, nous avions Stéphane Flocari qui parlait de ses chemises élimées. Mais là, elle dit non, il est très soigné. Nietzsche, c'est au moins autant un fantasme pour elle qu'un homme réel. Nietzsche, lorsqu'elle le rencontre, est le philosophe dont lui a parlé Paul Ré. Mais souligner que la rencontre entre ces deux grandes personnalités n'est pas purement anecdotique. C'est une rencontre d'intellectuels qui travaillent sur l'écriture. Lui a 38 ans, elle 21. Elle cherche son style. Elle a déjà une pensée qu'elle a traduite dans deux poèmes, « À la douleur » et « Prière à la vie ». Et lorsque Nietzsche découvre ces deux poèmes, il rencontre là une parenté de pensée. Et en quoi consistent ces deux poèmes où Nietzsche se reconnaît ? C'est le rapport à l'existence qui passe par une quête insatiable de la vérité au prix de la douleur. C'est-à-dire que si l'on souhaite vraiment jouir du bonheur, il faut savoir surpasser la souffrance. C'est le fugitif errant. Et lorsqu'il écrit à Lou von Salomé « Vous allez me réapprendre à devenir humain »,
oui.
Nous sommes au mois de juillet, ils se sont rencontrés donc au mois d'avril, et la correspondance ne traduit pas la pure anecdote, mais au contraire une véritable parenté de pensée sur la création, sur la femme.
Oui, sa force à elle aussi, artistique et intellectuelle. D'ailleurs, elle est au moins autant un fantasme pour lui, évidemment.
C'est un fantasme intellectuel,
la réciproque.
Oui, c'est pas le fantasme d'un homme, certainement pas, mais c'est un fantasme intellectuel et c'est pourquoi elle accepte son invitation ensuite. Mais avant le véritable dialogue philosophique entre deux, et donc la fin de la relation, il y a une reconnaissance intellectuelle pour un homme...
Réciproque.
Réciproque, pour un homme d'à peine 40 ans, et qui malgré tout, perd la vue. Il ne recherche pas en Lou von Salomé uniquement cette femme qui tapera à la machine pour lui, comme il l'a écrit. Il souhaite une interlocutrice. Alors, on s'est posé la question de savoir si elle était la disciple, l'héritière ou la continuatrice. Je répondrai qu'elle était...
Elle.
Elle était elle-même, comme elle l'a dit à 20 ans. Pour ma part, je ne connais que le jeu.
Et c'est évidemment ça qu'il aime chez elle, d'autant que dans Le Gai Savoir, Nietzsche dit qu'il pense qu'il faut vivre dangereusement. C'est une expression, il souligne, dangereusement, s'exposer. C'est d'ailleurs probablement ce qu'il fait aussi pour envisager de guérir.
Exactement.
Elle est de ces êtres qui vivent dangereusement, Lou Salomé ?
Oui. Absolument, toute sa vie aura été un risque de ne pas se conformer au dogme. Ce sont deux êtres antidogmatiques qui se rencontrent. Et ils rencontrent chez elle ce désir de liberté qui se traduit dans l'écriture et surtout par leur façon d'affirmer leur souffrance comme pouvoir de création. Et vous évoquiez très justement cette première monographie de Nietzsche en 1894, lorsque Gilles Deleuze écrit ce joli livre, excusez du peu.
vous avez raison.
Oui, 1894, elle est alors écrivaine reconnue, critique théâtrale dans les capitales européennes, en l'occurrence à Berlin, et l'on connaît cette fameuse photo avec le boa qui l'entoure, elle est superbe, mais elle est partie d'une pensée en germe et elle a su reconnaître en Nietzsche elle-même à son tour un interlocuteur qui allait pouvoir l'élever à des valeurs supérieures. D'où leur quête de créativité toujours poussée vers un plus de l'existence pour dépasser la douleur. Et c'est ça qui est formidable entre deux, car vous évoquiez tout à l'heure, cher collègue, le souci de, comme il lui écrit, traduire l'aspect biographique, traduire la créativité à travers les actes personnels de leurs auteurs, c'est ce qu'elle a fait dans son ouvrage de 1894, qui est l'un des premiers sur Nietzsche.
Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova.
e ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte e non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna, e abbiamo il sole in piazza, la rivolta, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ah, ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randagi ci sentiamo noi.
Ma Gaia! Gêne pour nous, Genova per noi, c'est Bruno Lozzi qui chante en 1975, avec des mots assez nietzschéens, nous nous sentons un peu errants, la baie, fille de lumière et de folie. On l'entend dire cela. Je vous remercie beaucoup Stéphane Flocari, Isabelle Mons et Yanis Constantinides. Les références de vos travaux sont sur notre site. Alors aujourd'hui, comme hier et comme demain et après-demain, avant d'entendre la chronique de Frédéric Worms, nous rendons un hommage au philosophe allemand Jürgen Habermas, mort samedi 14 mars. De renommée internationale, nous interrogeons quelques spécialistes et penseurs pour lesquels son œuvre est importante. Bonjour Estelle Ferrarez.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à l'université de Picardie. Vous connaissez très bien l'œuvre de Habermas. Je vous pose la question que je vais poser à tous mes invités sur ce sujet cette semaine. Pourquoi et en quoi l'œuvre de Habermas est-elle importante ?
C'est une œuvre qui incarne un certain XXe siècle, qui incarne une certaine idée de la raison, une certaine volonté de sauver cette raison malgré les échecs épouvantables dans lesquels elle s'était compromise, donc qui vont d'un certain capitalisme qui devient complètement hors de contrôle, mais aussi ce qui a été devenu dans le nazisme. Et contre cela, Habermas va tenter de la défendre, de la refonder d'une manière qui est tellement peu plausible que c'est pour ça peut-être qu'elle est admirable. C'est-à-dire, en fait, il va tenter de miser sur quelque chose d'extrêmement fragile qu'il y aurait dans le langage et qui permettrait, malgré tout, de construire une forme d'égalité qui permettrait de construire une communauté politique qui se passerait de tout affect, mais qui, précisément pour cette raison, serait le lieu d'une égalité toujours à naître et à renaître, à même les pratiques. Même. Donc ça, je pense que j'allais dire que pratiquement, c'est par ce qui est, peu, encore une fois, peu plausible qu'il est admirable. C'est-à-dire par cette manière de miser sur une conscience faillibiliste qui serait caractéristique de la modernité et donc caractéristique de chacun d'entre nous, alors même que c'est pas du tout ce que nous enseigne l'histoire de ces dernières années et certainement pas, y compris les dernières années qu'il a pu observer lui-même. Et à titre personnel, ce qu'il m'importe de garder de son œuvre, c'est la première époque. C'est, disons, tout ce qui va aller jusqu'au milieu des années 70. C'est le moment où il va tenter d'élucider tout ce qui est réification, aliénation, ce qu'il reste de l'idéologie, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut encore penser l'idéologie, ce qui nous emporte dans l'histoire et qui est en fait complètement fabriqué par les sciences et ne laisse plus place à aucune forme d'indétermination dans la connaissance. La réflexion aussi vraiment sur le capitalisme, il y a toute une lecture, alors certes peut-être dépassée par certains aspects, du capitalisme tardif, la manière dont il va reposer sur un marché qui crée une socialité absolument sans normes. Donc il y a vraiment quelque chose de cette époque-là qui pour moi est en tout cas actualisable, peut-être pas utilisable tel quel, mais actualisable.
Merci Estelle Ferrarez pour ces mots sur l'œuvre du philosophe Jürgen Habermas. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème la domination, comment la penser, quelles sont ses implications diverses. Voici le pourquoi du comment.
Comment Sartre décrit-il la domination ? L'expérience de la domination, de la soumission d'une liberté au pouvoir de quelqu'un d'autre, nous apparaît aujourd'hui comme une sorte de mystère, parce que nous considérons, depuis l'émergence du fait démocratique et de l'exigence des libertés et d'égalité de tous les êtres humains, nous considérons la domination comme un mystère, comme une sorte de mystère archaïque. Comment avons-nous pu être soumis à des maîtres ? Nous reprenons l'étonnement, la sidération de la Boétie qui s'étonnait de la servitude volontaire de tant d'êtres devant un seul et parfois de tant de vieillards sages devant les délires d'un enfant roi. Eh bien, d'une certaine façon, cette sidération devant la domination au 19e et au 20e siècle a été au cœur de la réflexion philosophique sur la liberté elle-même. En considérant que la domination n'est peut-être pas une anomalie étrangère à la question de la liberté et de l'égalité, mais se situe au cœur des rapports entre liberté et égalité elle-même. C'est déjà au cœur de ce passage fameux d'un texte de Hegel écrit au début du 19e siècle, mais qui connaîtra son heure de gloire au cœur du 20e, cette fameuse dialectique du maître et de l'esclave, où finalement, dans la prise de conscience de sa propre liberté par l'esclave qui se révolte contre la domination, émerge l'égalité de tous les sujets. Notre liberté ne nous apparaît que quand nous résistons à la domination, et le maître est alors obligé de tenir compte de l'existence de l'esclave qui accepte de jouer sa vie pour résister à la servitude et qui, en dominant le risque de la mort, fait apparaître sa propre liberté aux yeux du monde. La liberté ne serait donc pas un donné, mais une conquête sur un risque structurel de domination qui se situe au cœur de l'expérience de toute subjectivité et de toute relation. Parmi celles et ceux qui ont interprété ce texte célèbre au cœur du XXe siècle, il y en a un qu'on réduit un peu trop vite à des engagements politiques ultérieurs, mais qui, dans l'être et le néant, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, en 1943, a théorisé d'une manière peut-être très profondément démocratique l'expérience, la perversité et en même temps la radicalité du risque de la domination. En effet, pour Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, le désir de domination et le désir aussi d'être soumis, ces désirs sont au cœur de la relation entre des libertés égales qui se rencontrent dans le monde. Chaque liberté veut d'abord se réaliser dans le monde comme un objet. Elle veut se nier elle-même, dit Sartre. La liberté est difficile à assumer. Nous vivons dans la mauvaise foi. Nous avons, dans l'amour même, un désir d'être soumis au pouvoir de l'autre. Il y a un désir de domination qui est un désir de négation de notre propre liberté. Et puis il y a, bien sûr, l'insupportabilité de la liberté de l'autre. Il y a donc à la fois le désir de dominer la liberté de l'autre, de le réduire à une chose. C'est le désir du bourreau, du maître. Et puis il y a le désir d'être soumis, le désir de nier sa propre liberté qui est un projet constamment insatisfait et qui voudrait se réaliser dans la chose. Ainsi, Sartre, d'une manière certes discutable, il y a beaucoup d'autres interprétations possibles, Sartre décrit-il la rencontre des libertés et l'ambivalence intérieure de chaque liberté qui fait que le rapport entre égalité et domination est au cœur de la vie démocratique, précisément parce qu'il y a des libertés qui sont difficiles à vivre et difficiles à confronter les unes aux autres. Ainsi, la description sartrienne du risque de domination va-t-elle au cœur de nos vies, les soumis, les dominés ? Ce sont en fait les deux faces de notre existence auxquelles nous devons résister pour être libres.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Élise Leu. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Luna Hadjla et Antoine Ravon qui a beaucoup travaillé cette série, sa programmation et tous les enjeux qui étaient attachés à elle. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.